Gloire à Dieu. On va faire un petit partage ce soir encore sur les dons de service. En tant que don de service, c'est un des derniers que je vais parler sur ce sujet-là, le don de service. La semaine prochaine, ça va peut-être être sur d'autres sortes de dons que Dieu donne. Mais le don de service, c'est important de comprendre que ça parle de serviteurs qui s'engagent à servir le roi. Puis quand on s'engage à suivre le Seigneur, et qu'on est fidèle, dans le sens qu'on persévère, puis qu'on fait ce qu'il nous demande, le Seigneur nous développe dans tout cela, puis il augmente nos capacités, puis là, après ça, on est capable d'en faire plus dans l'Église. Puis on va voir ce soir que Dieu a donné dans son Église, dans ses différents dons de service, celui qu'on va voir ce soir, c'est le don de diriger. C'est un don qui fait partie du plan de Dieu. Dieu a donné ce don-là dans chaque église. Dieu a donné ce don-là dans chaque église parce que c'est important que le peuple de Dieu soit dirigé. On voit ça que Dieu a placé dans l'église qui est son corps des personnes avec le don de gouverner. Puis quand on va voir, on va comprendre avec les versets de quelle façon que ça doit être fait. C'est pas comme des personnes qui se pensent supérieures puis que là ils dominent tout le monde comme des tyrans. Ça, c'est loin de là. Mais il a quand même donné des dons de pouvoir diriger dans son église. Dans 1 Corinthiens 12, 27, qui donne la liste de ce que Dieu a établi dans l'église. Ça dit que Dieu établit dans l'Église, premièrement, des apôtres, des prophètes, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner. On voit ça, c'est un verset, dans le verset 28 de 1 Corinthiens 12, que le don de gouverner, c'est un don que Dieu a donné dans son Église. Mais il y a une différence entre le don de gouverner que Dieu donne dans son Église et le don de gouverner dans le monde. Dans le monde, ça prend l'esprit du monde, avec soit que t'es bon en mathématiques, t'es bon en histoire, t'es bon à l'école, t'es bon dans ta matière, puis t'es capable de diriger ce que t'as à diriger dans le monde. Mais dans le Seigneur, faut que t'atteignes un niveau de maturité un peu plus que la moyenne, que tu aies de l'expérience dans ton vécu avec le Seigneur pour être à l'écoute de ce qu'il dit, de quoi faire, quoi pas faire, de comprendre sa parole. Fait que c'est toutes des choses spirituelles. C'est un bagage de choses spirituelles, faut que tu ailles chercher pour arriver à exercer ce don-là. Le mot qu'il y a là pour le mot gouverner dans ce verset-là, ça en a le sens de leadership. Ça a le sens de donner une direction. Fait que dans l'Église, peu importe l'Église qu'on va, c'est une petite Église ou une grosse Église, veut pas, l'Église, elle a comme une direction à suivre. Puis tout dépendant de celui qui est responsable dans cette Église-là, c'est lui qui donne la direction, ou des fois, il peut avoir plus qu'une personne. Tout dépendant, il y a différents domaines dans l'Église où ce qu'il y a besoin de personnes qui dirigent des groupes, comme mettons le groupe entre hommes, mais il y en a un qui dirige puis il donne une direction. Fait que ça fait partie des différents groupes où l'Église en général qui est dirigée à l'écoute du Seigneur, mais par les dons du Seigneur, mais pour diriger quand même l'Église du Seigneur. On retrouve un autre passage qui nous parle de ce terme-là, mais dans un autre mot grec, dans Romains 12, 6, c'est encore dans la liste des dons de Romains 12:6, ça dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, là, il dit celui qui a le don de prophétie, celui qui est appelé au ministère, bon, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne le fasse avec liberté, que celui qui préside le fasse avec zèle. Là, on voit encore une mention de quelqu'un qui préside. D'habitude, quelqu'un qui préside, c'est comme un président d'une association où il préside dans une réunion, il y a quelqu'un qui parle en avant puis qui voit au déroulement de la réunion. Fait que c'est un don donné par Dieu d'être capable de présider. Puis le mot présider qui est là, ça veut dire diriger ou présider ou pratiquer. Ça, c'est dans le sens de disposer ou de placer devant, de mettre au-dessus, être au-dessus, de surveiller, de diriger, de présider, être un protecteur ou un gardien, donner de l'aide. Voyez-vous que ce mot-là, il y a du sens plus large que juste gouverner. C'est dans le sens d'être comme un genre de surveillant sur l'Église, puis amener quand même l'ensemble de l'Église dans une direction. Les deux versets, dans le premier, il y avait juste un verset dans le Nouveau Testament qui en parlait, mais dans le deuxième, il y a plusieurs versets qu'on retrouve le même mot. En fin de compte, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est sûr que l'Église, c'est le corps de Christ. La tête, c'est Jésus. C'est Jésus qui a un plan pour tout son corps à travers la planète. Jésus est en train de faire un plan qui se déroule sur la planète, puis en même temps, il y a un plan pour chaque Église dans les œuvres qu'on a à faire. Que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit pour l'édification de disciples, former des disciples, il y a un plan, le Seigneur, puis c'est lui qui mène. Mais dans son contrôle que le Seigneur exerce sur son Église, il a donné des dons dans son Église, des personnes qui ont le don pour diriger. C'est sûr que ces gens-là sont pas là pour faire leur propre volonté. C'est des gens qui aient développé d'être à l'écoute de Dieu pour entendre les messages de Dieu, pour avoir la vision de Dieu pour l'œuvre ou ce qu'on a à faire. Là. Ce qu'on a à faire à Saint-Rémy, c'est, mettons, Dieu, il y a une œuvre à faire à Saint-Rémy, puis il s'attend à ce qu'on soit à l'écoute de sa voix, on reçoive son message, puis qu'on amène l'Église dans le plan que Dieu a pour Saint-Rémy. Comme l'Église à Châteauguay, c'est la même affaire. Il faut qu'elle soit à l'écoute de Dieu, puis ces gens-là qui dirigent dans Châteauguay sont à l'écoute de Dieu, puis ils dirigent l'Église dans ce que l'Église doit être amenée. La vie chrétienne, c'est comme une équipe sportive. Chacun a son rôle, puis un entraîneur. L'entraîneur, c'est une personne qui est plus expérimentée, qui connaît le jeu, puis il peut amener chacun à évoluer, puis à offrir le meilleur d'eux-mêmes pour remporter des victoires. Il pousse. Il essaye d'amener chacun à trouver sa place, puis il amène dans la vision de Dieu. Il amène les gens dans la vision de Dieu. C'est l'entraîneur. C'est un peu ça. Il n'est pas le boss, mais il est là pour coacher. Puis Dieu en a mis des gens comme ça dans l'Église. Puis là, on faut découvrir notre rôle dans tout cela. C'est ça qui est le but. Là, on a partagé depuis des semaines les dons spirituels, les dons de service. C'est dans le but que chacun trouve sa place, qu'on trouve notre place, qu'on est attiré, ce qu'on a à cœur, ce qu'on aime, ce qu'on se sent appelé à faire. Puis là, on a de l'aide parce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider dans notre développement, puis à s'intégrer dans l'Église, puis à mettre au service des autres les dons qu'on a reçus. Fait que c'est le rôle du coach de gérer l'ensemble. C'est sûr qu'il y a des églises, des fois, qu'ils donnent pas de chance à personne. Ça, je sais que ça existe. Mais nous, ici, à Beauharnois ou à Saint-Rémy, on veut que tout le monde s'implique. On veut que tout le monde trouve sa place, que tout le monde s'investisse pour faire avancer l'œuvre de Dieu, que tout le monde soit développé dans ses dons et ses talents. On n'est pas là pour caler personne, puis on donne l'enseignement, puis la matière. On veut équiper, on veut amener les gens à trouver leur place, puis que tout le monde s'implique. Mais là, il y a toujours des principes, comment ça marche, comment est-ce que Dieu a donné dans sa parole les principes qui devraient être mis pour qu'on trouve notre place. Comment sont appelées les personnes de l'Église qui doivent être des dirigeants? On le voit dans quelques passages, mais un entre autres, dans 1 Timothée 5, 17, ça nous dit que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça veut dire que les gens qui sont appelés à être dirigeants dans une église sont appelés, dans ce verset-là, des anciens. Des anciens, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont plus vieux que les autres. C'est pas parce que tu es plus vieux que tu es un ancien, mais c'est que peut-être que tu es vieux dans le Seigneur. Tu as de l'expérience, tu as du vécu, tu as vécu des choses, puis tu es capable de partager, puis tu as reçu le don pour être capable, ça nous le dit, ces anciens-là, ils travaillent à la prédication, à l'enseignement. Ça veut dire qu'ils sont capables d'enseigner la Bible, d'expliquer la Bible pour que tout le monde la comprenne. Fait que c'est pas parce qu'ils sont plus vieux que les autres qui sont anciens, mais les anciens, c'était quand même les ceux qui étaient... dans le temps humain, là, quand on regarde aux yeux humains, c'est les cheveux blancs, c'est l'expérience, c'est la sagesse, apparemment, supposément, mais des fois, il n'y en a qu'un cheveu blanc, puis il n'y en a pas de sagesse. Faut pas juger trop par l'apparence. Puis il y en a qui sont jeunes, qui sont bien sages. Ça veut dire que ça, dans le Seigneur, en tout cas, être appelé ancien, ça dirige, puis ça enseigne, ça conduit le peuple dans la parole de Dieu. Comment arriver à une position de leader dans l'Église? Parce que Dieu y en appelle. Puis c'est ça qui justement qui est le but. Premièrement, pour être un leader, il faut que ce soit un appel de Dieu. Dieu le met dans le cœur à cette personne-là. Il met à cœur de vouloir grandir, de vouloir être plus efficace pour Dieu, de vouloir être fidèle dans ce que Dieu lui a déjà confié, mais il veut en faire plus. Quelqu'un qui sent cette attirance-là, c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Puis si la personne est fidèle, comme qui dit celui qui est fidèle dans les petites choses, il va y en confier des plus grandes. Fait qu'on commence par être fidèle dans les dons qu'il nous donne, puis les choses, notre vie, on grandit dans la connaissance, on grandit dans notre capacité à faire les choses, puis là, Dieu va nous en confier des plus grandes. Si on voit ça, un exemple, entre autres, comme Paul, qui est devenu comme un apôtre, pas comme un apôtre. Il était un apôtre qui est envoyé comme un missionnaire, aller ouvrir des églises un peu partout. Puis c'est Dieu qui l'a appelé pour faire ça. Il en parle dans Acte 13, le verset 2. Ça dit, dans cette église-là, à Antioche, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit... « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On voit que Saul, il était déjà un gars qui était capable d'enseigner la parole. Il était formé, puis il n'était pas gêné de prendre position publiquement pour évangéliser. Il l'a fait à Damas pendant 3 ans après qu'il soit converti. Il a retourné à Jérusalem après ça pour voir les apôtres, puis leur expliquer comment est-ce qu'il prêchait l'évangile. Il n'était pas gêné, il était déjà dans l'action. Puis quand il était à l'église d'Antioche, elle nous dit qu'il faisait partie de ceux qui dirigeaient dans cette église-là, il enseignait les disciples. Mais il a été appelé par Dieu à devenir un apôtre, une personne qui partait pour implanter d'autres églises dans d'autres villes, dans d'autres villages. Il avait déjà une maturité dans le Seigneur, puis là, il y a eu un appel de Dieu pour son nouveau ministère. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu es une personne qui veut avancer dans le Seigneur, tu veux un jour devenir être quelqu'un que Dieu utilise pour faire des grandes choses, mais le secret est, commence par être fidèle dans les petites choses. Dieu nous appelle à être fidèles dans les petites choses. Il y a des petites tâches qu'il nous demande de réaliser qui sont là. Il veut qu'on s'investisse là-dedans. Puis allons, le Seigneur voit notre fidélité, puis il va nous utiliser dans d'autres choses. Puis à un moment donné, on devient être capable qu'il nous confie de plus grandes choses. Dieu, il donne ses dons, puis il nous forme. C'est la deuxième affaire. Tu as premièrement l'appel, il va t'appeler pour que tu puisses faire avancer. Tu as l'appel, il te montre qu'il t'appelle à ça, mais il te donne aussi les dons pour le faire. Si on se dit, j'aimerais ça prêcher. Oui, on aimerait ça prêcher, c'est correct. On aspire à quelque chose de beau. Quand est-ce qu'on va sentir qu'on est vraiment appelé à prêcher? C'est que tu vas le ressentir que tu as le goût que tu aimerais être dans ce rôle-là. Mais après ça, tu vas voir que le don de comprendre les versets puis d'être capable de les exprimer, d'être capable d'expliquer aux autres, puis que les autres comprennent ce que tu dis, mais c'est quand même, ça prend un don pour faire ça, c'est un don de t'exprimer. Ça fait partie, en règle générale, que tous les prédicateurs, lorsqu'ils s'expriment, les gens comprennent. Donc, ils ont le don de s'exprimer pour passer le message de Dieu. puis que les gens, ils écoutent, puis ils sont tous édifiés. Ils comprennent les choses de Dieu, puis là, ils sont bénis. C'est là qu'on voit que la personne est déjà en train d'être préparée pour être utilisée dans ce rôle-là. Quand tu es rendu à ce niveau-là, ça, c'est au niveau de prédicateur. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs ministères dans l'Église, que ce soit le ministère d'être en charge de l'école du dimanche, ou de s'occuper, de diriger le groupe des hommes, ou diriger le groupe des femmes, ça prend un minimum de savoir-faire, un minimum de connaissance de la parole de Dieu, t'amènes des exhortations, tout ça, mais il faut que tu sois atteint un minimum de maturité. Quand la personne, elle atteint ce niveau-là, elle est apte de pouvoir faire ce rôle-là. Troisième critère qu'il faut réaliser, qu'il faut qu'il soit là avant d'envoyer quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, c'est que les candidats, ils doivent faire leurs preuves. Il faut qu'ils soient approuvés par les autres. Il faut que ça soit évident qu'il y a les dons, que les autres qui le voient y aller vont dire « Oui, on le voit là, ce gars-là. » Autant qu'il y a eu l'appel de Dieu, autant qu'il avait la capacité de le faire, autant que ça prend que les autres l'ont reconnu. C'est ça qui est pas la plus pire des étapes, mais qui est une étape difficile. Si on veut que les gens nous reconnaissent, il faut qu'ils reconnaissent qu'on a ces dons-là. Fait qu'il faut que la personne automatiquement agisse de façon à ce qu'elle soit reconnue. Admettons que la personne veut être pasteur, puis il est toujours, quand il rouvre la bouche, il est toujours en train de critiquer ce qui se passe autour de lui, critiquer l'autre pasteur, critiquer les autres églises, critiquer les frères et sœurs, puis il est au négatif, toujours en train de dire des affaires qu'il ne devrait pas dire. Est-ce que les gens vont reconnaître qu'il y a le don? Non. Il vit pas de façon à ce qu'il peut être reconnu. Fait qu'à ce moment-là, le gars, il peut avoir l'appel, Dieu l'appelle, il l'attire à faire cette fonction-là, il peut avoir le don, il est capable de s'exprimer quand même pour expliquer les choses de la Bible, mais il a, dans son attitude, dans sa manière d'agir, il n'a pas encore la maturité pour pouvoir exercer ce rôle-là. Surtout, comme ce poste-là, ça nous dit dans la Bible, il faut qu'il soit irréprochable. Tu sais, il faut que ce soit un homme que, si le gars, il dit des sottises, puis il agit tout croche, c'est sûr qu'il ne pourra pas faire ce rôle-là. Dans 1 Timothée 3:10, ça nous dit « Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. » Qu'on les éprouve d'abord, là, ça veut dire qu'on les mette à l'épreuve. La personne dit qu'il est appelé, il dit qu'il a les dons, mais on le regarde aller. Bon, en voyant la manière qu'il se comporte, dans la manière qu'il parle, dans la manière qu'il agit, puis dans la manière qu'il se consacre dans l'œuvre de Dieu, tout ça, ça nous parle pour nous dire est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'il est pas prêt. Puis là, s'il l'est pas, il peut pas rentrer dans le ministère. Parce que les gens voudront pas prier pour lui, puis loin, puis dire oui, amen, on reconnaît. Puis on ne l'enverra pas parler à d'autres si on sait qu'il va lui dire toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport. Fait que, il est important que si je veux grandir dans le Seigneur et être utilisé, faut que je cherche c'est quoi l'appel qui est dans ma vie. Faut que je me sois équipé par Dieu pour être capable de faire les dons dans lesquels il m'appelle. Comme là, si c'est la direction de, on veut être un leader dans l'Église, mais il faut qu'on ait un certain développement dans la connaissance, mais aussi dans notre mise en pratique de tous les jours. Notre vie, elle doit refléter ce qu'on est, ou ce qu'on devrait être, ce qu'on pense être. Puis si on se fait des illusions, mettons qu'on n'a pas la bonne façon de s'exprimer, mais c'est d'aller chercher les formations qui nous manquent pour pouvoir y arriver. De quelle façon que Dieu veut que les leaders exercent leurs dons dans l'Église? Comme qu'on a vu dans Romains 12:8, celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle. Puis le mot zèle, ça veut dire avec empressement, s'empresser, être à la hâte. Avec zèle, là, c'est sans paresse. C'est quelqu'un qui fait des efforts. Fait que quelqu'un qui veut être dans un rôle de dirigeant dans l'Église, il ne faut pas que ça soit un paresseux. C'est clair que Dieu se cherche des gens qui président, ils veulent conduire l'Église. Il faut que ça soit quelqu'un qui a une vision, et quelqu'un qui n'est pas paresseux, qui est empressé à voir que les choses avancent, puis que là, il va travailler avec l'ensemble d'Église pour emmener l'ensemble d'Église à faire quelque chose. S'il est paresseux, il a beau avoir la plus belle vision que Dieu lui donne, s'il ne communique pas aux autres puis il ne veut pas que les choses se fassent, l'Église va être dans 6 mois, 1 an, 5 ans plus tard, va être encore au même niveau qu'elle était. Il n'y a rien qui avance parce que il n'a pas à cœur de faire avancer les choses. Il faut que tu sois empressé, il faut que tu sois zélé, il faut que tu le fasses avec courage, puis tu t'engages, puis tu te donnes de ton toi-même, tu fais des efforts, puis tu emmènes les autres aussi dans ce plan-là. Parce que c'est pas un plan personnel, c'est un plan d'équipe, c'est un travail d'équipe qu'on fait là. Une autre chose que ça nous dit sur la manière que ça doit être fait, quelqu'un qui dirige dans l'Église, dans 1 Pierre 5:2, ça nous dit que paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Il y a 3 affaires qu'il faut pas, puis il y a 3 affaires qu'il faut dans ce verset-là. Faut pas que les gens le fassent par contrainte. « Ah, je suis forcé aujourd'hui, ça me tente pas, puis là, je me sens obligé d'aller aider ou aller exercer mon don dans l'Église. » Le faire parce qu'on est forcé, là, ça amène pas la bénédiction de Dieu. Si un ouvrier se sent obligé, là, puis se sent forcé, il fait les choses du reculon, je pense qu'il y a un problème. Il devrait faire les choses volontairement, avec zèle, avec empressement. L'autre point qui est dangereux, c'est de faire les choses pour un gain sordide. Ceux qui cherchent à faire les choses dans l'œuvre de Dieu uniquement pour la paye, uniquement parce qu'ils vont avoir l'argent, ils sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu avec le bon cœur. Ça nous dit de le faire avec dévouement. T'es quelqu'un qui renonce à toi-même puis qui est prêt à t'investir. Tu calcules, t'es pas là pour calculer les heures. Même si on considère, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui mènent les églises, qui président dans l'église, il y en a qui sont payés, mais il y en a qui sont pas payés. À cause de ça, il faut comprendre que tu n'as pas le même temps qui est disponible. Tu n'es pas payé, ça veut dire qu'il faut que tu aies un job pour vivre, tu travailles pour vivre. Fait que là, tu as ton travail plus l'église. Fait que veux pas, ces gens-là, ils se dévouent. Parce que le travail de l'Église, c'est en plus de leur travail. Ceux qui ont un salaire, mais là, ils sont à plein temps dans l'œuvre. Ils ont plus de temps pour travailler dans l'œuvre. Puis là, s'ils calculent leurs heures, moi, ça fait 20 heures, 30 heures, j'investis dans ces fêtes. Le Seigneur dit, fallait pas pour l'argent. Fallait parce que tu veux être dévoué. Fallait parce que tu veux le faire librement, avec joie, avec empressement. Puis le troisième point, t'es pas là. Un leader, il est pas là pour dominer les autres, pour les écraser, pour les contrôler, pour leur dire, fais ci, fais pas ça, touche pas à ça. Puis, non, il dit, faut que tu fasses ça comme si tu serais le modèle du troupeau. Premièrement, faut que tu le fasses toi-même, pour montrer aux autres comment faire les choses. Là, les autres te suivent. C'est ça qui est le secret. Il faut être capable de faire les choses de façon à ce que les autres soient entraînés à le faire et non pas « faites ça » puis lui, il bouge pas le petit doigt puis envoie les autres le faire. Puis l'autre côté qu'il faut regarder, quelle est l'attitude des autres dans l'Église face à ceux qui dirigent dans l'Église? Quelle devrait être notre attitude envers ceux qui dirigent? Dans 1 Thessaloniciens 5:12, ça nous dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Il faut avoir de la considération. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de la considération? C'est de considérer, c'est d'avoir du respect, de réaliser que cette personne-là est en train d'investir sa vie. Elle a elle aussi ses loisirs, ses activités à faire, mais elle a décidé de s'investir, d'investir son temps pour apprendre à connaître la pensée de Dieu puis transmettre le message de Dieu aux gens. Puis cette personne-là s'est investie pour d'une cause qui rapporte pas grand-chose, personnellement, humainement parlant. Ça rapporte pas, elle n'est pas là pour faire de l'argent. Elle est là pour avec dévouement. Puis de considérer ces personnes-là qui sont en train de le faire, puis de les bénir, de lui donner un coup de main, de les remercier. C'est la moindre des choses que d'être reconnaissant qu'il y a des personnes qui sont consacrées à Dieu. C'est sûr qu'ils font pour Dieu, mais on est quand même tous des bénéficiaires. Mettons, moi, ça fait 34 ans que je suis chrétien, mais j'en ai eu des pasteurs qui ont pris du temps pour me prêcher que j'ai écouté des pasteurs depuis tous les dimanches que je vais à l'église, puis les mercredis que je vais à des réunions. Je n'ai entendu des prédications, j'ai entendu des choses, je n'ai vu des choses. Fait qu'il y a du monde qui se sont investis à quelque part pour que je puisse être rendu là aujourd'hui dans ce que je suis. Faut que j'aie de la considération. Faut que je sois respectueux. Il faut les remercier. Un autre passage qui nous parle dans 1 Pierre 5:5. Comment est-ce que je dois avoir comme attitude envers ces gens-là qui nous dirigent? Ça nous dit, vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ça veut dire, quelle attitude je dois avoir envers ceux qui sont responsables de l'Église? C'est de me soumettre. Parce que Dieu a placé des gens avec des dons, des capacités, des gens qui ont été formés. Puis là, ils sont impliqués dans le ministère de cette église-là. Là, ils font les choses. Et moi, j'arrive là. Il y a deux manières que je peux faire. Soit que je me mets à écouter ce qui se passe, puis à être respectueux, puis à être reconnaissant, puis de prendre tout ce que je reçois, puis de le prendre avec joie, ou commencer à être rebelle, puis commencer à m'astiner, commencer à « Non, moi, je ferai pas ça de même, puis moi, on devra faire ça de même », puis commencer à remettre en question ce qui est en train de se faire pour tout essayer de revirer ça à l'envers. Dieu veut qu'on apprenne à se soumettre. Il y a des choses peut-être qu'on comprend pas. Prions le Seigneur. Il y a des choses peut-être qu'on réalise qu'à l'Église, il ne devrait pas faire ça de même. Prions le Seigneur. Ayons confiance que Dieu mène cette personne-là. Si c'est une Église qui est complètement charnelle, puis que là, l'Esprit de Dieu n'est même plus là, ça, c'est une autre affaire. Là, je vous dis rien là-dessus pour le moment. Mais si c'est une Église qu'on sent que Dieu est là, puis que la présence de Dieu est là, puis qu'il se passe des choses de Dieu, là, mais respectons ce qui est là, puis soyons soumis, prions pour les choses qui ne font pas notre affaire. Puis là, de cette façon-là, on va être dans la bonne façon de réagir dans l'Église. Dernier verset que je vous lis là-dessus. Inspiré du Seigneur, guidé par les personnes choisies, gardant une vision d'ensemble, le travail d'équipe amène une bénédiction et un renforcement dans l'Église. Si on réalise qu'on n'est pas là pour combattre le pasteur et ceux qui dirigent, on n'est pas là pour se chercher à chicane et le trouble avec les autres brebis, c'est le contraire, on est une équipe. On doit apprendre à travailler en équipe. Puis quand il y a une équipe, ça dit qu'il y a des coachs, puis il y a des aides aussi pour les coachs. Puis nous autres, on a un rôle à jouer, mais on s'applique à apprendre notre rôle. Pendant le temps qu'on est là, on met le paquet à être attentif, à respecter, à recevoir, à se laisser former. Puis après ça, Dieu va nous utiliser, puis tout le monde va être béni, parce que Dieu, il va nous communiquer à chacun une force qu'on a besoin. Puis ça va tirer les uns des autres. Parce que chaque brebis, quand elle va grandir, elle va être capable de donner à l'autre, puis l'autre donne à l'autre. Puis on va tirer un accroissement les uns des autres. Ça sera pas juste du pasteur ou des enseignants. Ça va être, chacune des brebis va donner du sien pour la croissance de l'Église du Seigneur. On voit ce passage-là dans Éphésiens 4:16. Ça nous dit que c'est de Jésus et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, il forme un solide assemblage puis il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties puis il s'édifie lui-même dans la charité. On voit que l'Église est un solide assemblage puis on tire notre force les uns des autres. On tire notre force les uns des autres. Qui est prêt à vouloir s'engager à l'œuvre de Dieu? Mais Dieu le voit à votre réponse. Et Dieu, il va vous bénir. Il va vous utiliser, puis il va vous guider dans ce développement-là, puis vous allez être des instruments de Dieu dans ses mains. Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te remercie pour ta parole, tout ce que tu nous montres à propos du leadership puis de la direction de l'Église. On veut apprendre à se soumettre et à rentrer dans le moule que tu as préparé d'avance pour nous former, pour nous révéler ta pensée, ta parole, nous apprendre à vivre comme ta parole nous la demande. Mais je te demande aussi de nous utiliser, que chacun trouve sa place dans l'Église, que chacun mette ses dons à ton service, qu'on puisse être formé en servant, qu'on devienne des serviteurs fidèles, puis qu'on persévère dans ce service, puis qu'on voit des fruits dans nos vies. Je te demande que chacun trouve sa place et que tout le monde puisse participer à l'édification du corps du Christ. Puis je te remercie pour ton Église, puisqu'on fait partie. Je te demande de la bénir, de multiplier tes dons. Puis on remet nos ventres à tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.